Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Primitive. Je suis Auréa.
Et je suis Antoine. Nous sommes ravis de vous retrouver dans notre troisième numéro de Prime Vert, l'émission qui mêle environnement et territoire. Au programme aujourd'hui, nous allons vous emmener avec nous afin de retracer le chemin des déchets organiques que l'on jette du bac à compost jusqu'à sa décomposition et sa valorisation à Reims et alentour. Cette émission, elle va être en deux parties. Aujourd'hui, dans notre première partie, on va surtout parler du compostage. C'est un peu la première idée qui nous vient en tête lorsque l'on évoque à la décomposition des déchets organiques. Certains d'entre vous, sûrement comme de très nombreux habitants dans le Grand Reims, ont sans doute un bac à compost au fond de leur jardin, ou alors même au pied de votre immeuble, dans certains quartiers, on a des bacs à compost partagés. Alors dans le Grand Reims, parmi les déchets collectés, il n'y a que les déchets verts, donc c'est-à-dire tout ce que vous allez mettre dans votre poubelle verte, qui servent à la réalisation de compost. Dans une seconde émission, on va évoquer la méthanisation. C'est la méthode qu'a choisie le Grand Reims pour valoriser les biodéchets, c'est-à-dire les déchets alimentaires, qui sont notamment apportés dans les bornes installées un petit peu aux quatre coins de la ville, les points d'apport volontaires. On verra aussi que de nombreux restaurants font le choix de cette méthode à cause d'obligations légales. Alors pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi surtout le sujet du tri des déchets revient autant et aussi souvent dans l'actualité ? Alors tout d'abord, c'est la part d'une conclusion qui est vraiment unanime parmi les scientifiques. Nous produisons des quantités phénoménales de déchets. Si nous avons l'habitude de trier nos déchets dans la poubelle de verre ou la poubelle jaune, c'est pas le cas de nos biodéchets qui, eux, sont tous jetés un peu en fatras dans la poubelle d'ordures ménagères et qui finissent donc leur vie dans la majorité des cas, et c'est le cas à Reims, incinérés. Sauf que incinérer des déchets organiques, c'est une perte énorme d'énergie parce qu'ils contiennent plus de 80% d'eau. De plus, alors que la plupart des incinérateurs sont vieillissants et manquent de place, comme à Reims, leur offrir d'autres débouchés pourrait permettre une durée de vie plus longue de ces incinérateurs. Il y a donc un enjeu très important à mieux recycler nos biodéchets, à ne plus les mettre dans les ordures ménagères. Les déchets organiques, ou biodéchets, on va utiliser les deux termes, sont donc des déchets qui peuvent être décomposés par la nature elle-même, sans passer par une décomposition chimique. Les remettre à la terre signifie alors produire de la nouvelle matière organique pour les végétaux qui se nourrissent de celle-ci. Nous en apprendrons plus sur ce fonctionnement dans cette émission. En réalité, cette idée de recyclage des biodéchets et de compostage surtout, elle ne provient pas du tout d'aujourd'hui. Déjà à la fin du XXe siècle, les habitants reviennent aux bonnes méthodes traditionnelles de compostage des déchets organiques. C'est ce que vous pouvez entendre dans une archive de l'INA datant de 1993.
Alors une autre idée, cette fois à l'échelle d'une commune, à Cesson en Seine-et-Marne, on en revient aux bonnes vieilles méthodes traditionnelles en matière de recyclage des déchets organiques. C'est le tas de fumier, mais version urbaine. La mairie, qui s'est déjà illustrée pour le recyclage des déchets en tout genre, a distribué une centaine de composteurs verts. De drôles de boîtes ont donc fait leur apparition dans les jardins de Cesson, Xavier Grimaud et Michel Ray.
Depuis quelques jours, Madame Anglaret a pris l'habitude quotidienne d'emmener sa poubelle de cuisine au fond du jardin. Dans ce conteneur aboutissent les épluchures, les filtres à café, l'herbe coupée ou encore les feuilles mortes. Toute une série de déchets qui, une fois décomposés, donneront d'ici 2 à 3 mois un engrais naturel pour les plantes du jardin. Un procédé tout simple, traditionnel, mais qui permet de recycler une partie des poubelles.
Je suis toujours partante pour ce genre d'expérience parce que je trouve que c'est tellement dommage de remplir les sacs poubelles avec des déchets de gazon, par exemple, et d'aller en remplir les décharges alors qu'on pourrait les utiliser autrement. Ça nous a tout de suite séduit.
Alors pour comprendre un peu pourquoi on parle de vieilles méthodes traditionnelles, on va revenir un peu dans l'histoire du compost. En France, la pratique du compostage est en réalité connue depuis le 19e siècle. Et on peut dire qu'elle a connu un drôle de destin au gré de la gestion des déchets ménagers, des guerres, des chocs pétroliers et de la crise climatique. Pour comprendre un peu ce qui se passait au 19e siècle en France, les pratiques de compostage répondent à une préoccupation centrale. Comment nourrir des populations urbaines qui ne cessent de croître ? Tout au long du 19e siècle, Paris est nourri grâce aux excédents alimentaires produits dans les campagnes environnantes, tandis que les restes de ces déchets sont acheminés vers les zones agricoles afin de servir de fertilisant aux champs. Mais avec l'arrêté Eugène Poubelle en 1883 et les politiques d'aménagement haussmanniennes de la fin du XIXe siècle, tout va conduire à de profondes transformations des villes. C'est à ce moment-là qu'on ne va plus avoir des restes organiques urbains, mais on va avoir de véritables déchets urbains, c'est-à-dire plus des déchets qui viennent de la matière organique, mais des déchets qui contiennent des matériaux chimiques. Ces déchets ne peuvent donc plus être acheminés vers les campagnes. Et donc, petit à petit, on va recourir à l'incinération pour jeter et se débarrasser de ces nouveaux déchets au XXe siècle. Faisons un bond en avant, puisque à partir des années 1990, cette fois, le compostage revient au goût du jour, sous une forme inédite, celle du compostage dit de proximité. C'est ce qu'on a pu entendre dans l'extrait de Lina. Réalisé par des bénévoles à proximité de leur domicile, généralement dans des parcs ou des jardins, le compostage de proximité est présenté comme un moyen de gérer écologiquement les restes alimentaires domestiques, mais aussi de créer du lien social dans le quartier, puisque ces composteurs se retrouvent justement dans des lieux publics. Le compostage devient ainsi une modalité de lutte pour certaines personnes contre la surproduction de déchets, donc, qui arrive justement dans la période post-Seconde Guerre mondiale. Et cette surproduction de déchets est parfois qualifiée d'ailleurs d'aberration, car les déchets, pour s'en débarrasser, on les incinère. Et incinérer, donc brûler des déchets organiques, reviendrait en réalité à, je cite, « brûler de l'eau ». Au cours des années 2010, les pouvoirs publics se saisissent de la question des déchets organiques et rendent obligatoire pour les gros producteurs le tri et la valorisation des déchets organiques. Le compostage se professionnalise, se marchandise et s'industrialise en amenant les collectivités à une généralisation de ces pratiques de compostage pour l'ensemble des habitants de la commune. Au regard de ces enjeux, d'écologie, de surproduction des déchets, le Parlement a voté en 2020 la loi AGEC. Cette loi dite d'anti-gaspillage devrait permettre une économie plus circulaire de gestion des déchets. En vertu de cette loi, depuis le 1er janvier 2024, toutes les communes de France doivent mettre en place une solution pour leurs habitants afin qu'ils puissent valoriser leurs biodéchets. Dans le Grand Reims, cela se traduit par des points d'apport volontaires, comme vous en a parlé Antoine, et par des composteurs partagés accessibles dans le quartier. Dans cette émission, nous allons donc vous expliquer comment fonctionne le compostage d'un point de vue scientifique et pourquoi c'est une pratique bonne pour le sol, comment faire un bon compost chez soi, comment s'inscrit le compostage dans le cycle du carbone et comment la ville de Reims a mis en place des bacs de compost comme la loi l'y oblige et dans quel cadre ils s'inscrivent. Pour partir de zéro, nous avons décidé de commencer par interviewer les services de ramassage des ordures du Grand Reims. Ce service a en effet un grand rôle dans la collecte des déchets des 297 492 habitants des 147 communes du Grand Reims. Et la récolte s'élève ainsi à 472 kg par an et par habitant d'ordures en tout genre, ce qui représente environ 70 kg de biodéchets par personne. Ainsi, nous avons été demandés à la ville de Reims, que font-ils de ces biodéchets ?
Bonjour à vous. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je suis aujourd'hui avec monsieur Adrien Prévoto, donc vous êtes responsable des secteurs biodéchets pour le Grand Reims, donc qui regroupe les 143 communes autour de Reims et qui gère notamment la gestion des déchets. Donc aujourd'hui on va s'intéresser surtout aux biodéchets, donc tout ce qui est déchets alimentaires. Et puis je suis aussi avec monsieur Stéphane Rigaud, donc vous travaillez pour Suez, donc, qui a reçu une délégation de services publics de la part du Grand Reims. Alors peut-être juste pour commencer, mettre les choses au clair pour tout le monde, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les missions qui ont été confiées à Suez par le Grand Reims ?
Alors, lors d'un appel d'offres, le Grand Reims a demandé un prestataire pour la collecte et le traitement des biodéchets. Donc, je suis en charge du contrat qui regroupe en fait tout ce qui est collecte et acheminement vers les centres de traitement des biodéchets.
Et donc, bah, maintenant, on va passer un peu plus à la partie sur les biodéchets. Pour commencer un peu plus largement, quels sont les modes de collecte donc des biodéchets dans le Grand Reims? Si vous pouvez nous expliquer ça, Monsieur Prévoteau.
Alors, il y a plusieurs modes de valorisation sur les biodéchets sur le territoire. Donc, dans un premier temps, il y a le compostage individuel. Donc là, c'est sous forme d'un bac dans le jardin individuel des usagers. Il y a le compostage partagé, donc c'est sur l'ensemble du territoire aussi, où on met en place des bacs plus ou moins volumineux en fonction du nombre d'habitants, soit dans des écoles, dans des jardins, en pied d'immeuble, en fonction des demandes des différents habitants. Et un troisième point, il y a la collecte des points d'apport volontaires, uniquement dédiés aux 6 communes historiques, où là c'est de l'apport volontaire dans des mobiliers dédiés.
D'accord. Ces biodéchets, quand est-ce que ça a commencé, leur collecte? Quel a été le processus justement de mise en place? Je suppose que la loi, parce que depuis 2024, pour expliquer, maintenant c'est obligatoire pour les communes de fournir des solutions aux usagers pour retraiter, on va dire, ces biodéchets. Donc comment s'est déroulée, on va dire, cette mise en place? Puis qu'est-ce qu'on faisait de ces biodéchets avant, quoi?
Donc il faut savoir que depuis plusieurs années, ça fait 15 ans, où nous on met en place de la prévention des biodéchets via le compostage. Donc ça, c'est depuis 2010, on distribue des composteurs gratuitement. On va dire qu'avant la mise en place de la collecte, c'était plutôt dédié les biodéchets au compostage, pour ceux qui avaient la possibilité d'en avoir un chez eux. Et effectivement, depuis la loi AGEC de 2020, les collectivités ont une obligation de mettre en place un tri à la source des biodéchets, des solutions pour trier les biodéchets. Donc le compostage en fait partie, mais sur les espaces très urbains, la collecte en point d'apport volontaire est beaucoup plus adaptée. Donc dans un premier temps, il y a eu une étude qui a été faite en 2019 sur le gisement de biodéchets sur le territoire. Il y a eu une mise en place ensuite d'une expérimentation de 18 mois de décembre 2020, qui a commencé en décembre 2021, pour tester du matériel et analyser un peu la réponse des usagers à ce nouveau service. Ensuite, il y a eu le déploiement, suite à cette phase de test, le déploiement de 539 points d'apport volontaires, donc de septembre 2023 à septembre 2025.
Et aujourd'hui, on est à quelle quantité à peu près de biodéchets qui sont récoltés par ces points d'apport de volontaires?
Alors actuellement, du coup, on a, comme je le disais, 539 points. On est stabilisé entre 16 et 17 tonnes par semaine actuellement, depuis la fin du déploiement. Il faut savoir qu'on a un déploiement des bornes de 25 mobiliers par mois. Donc au fur et à mesure des mois, les quantités étaient de plus en plus importantes forcément. Et ça s'est quand même stabilisé sur la fin. Par exemple, pour donner des chiffres un peu plus précis, en 2024, on a récolté 580 tonnes. En 2025, 850 tonnes récoltées. Et en 2026, la prévision, ça serait d'être plutôt entre 1200 et 1500 tonnes pour l'ensemble des mobiliers.
Alors concernant les PAV, on y reviendra dans notre prochain épisode. Ici, on va plutôt se concentrer sur le compostage. Alors pour revenir un peu sur les biodéchets des plutôt points d'apport volontaire, alors peut-être que Monsieur Rigaud serait plus à même de répondre. Quel est le parcours donc à partir du moment où moi je vais mettre mes biodéchets dans le point d'apport volontaire, quel va être le circuit, on va dire, que suivent ces biodéchets?
Une fois que vous avez déposé dans l'abri bac, ça tombe dans un bac qui va être collecté à minima une fois par semaine en période estivale, période chaude, on va plutôt le faire deux fois par semaine, et en fonction aussi de la production de cet abri-brac. Donc une fois qu'il est collecté, on le collecte avec un camion et une cuve étanche. Un camion spécifique et dédié à cette collecte de biodéchets. Donc on va collecter, on va faire tout un circuit qui permettra de collecter une partie des 539 abri-bacs disposés dans le Grand Reims. On les collecte tous dans la semaine, on est actuellement sur 4 jours. Et on a la capacité de doubler en fait notre fréquence de collecte sans problème. On est équipé avec deux camions qui permettront de couvrir largement le besoin. Une fois que c'est collecté, on a deux choix. Alors on collecte à la fois de l'abri-bac pour les particuliers, mais on collecte aussi le biodéchet pour les marchés de bouche. Donc il y a deux filières qui se proposent. Soit on emmène pour les particuliers sur du méthaniseur, Donc on va à un méthaniseur avec lequel Suez s'est associé pour transformer en fait ce biogaz en énergie. Tout ça, ça va être en fait... on va séparer les matières qui ne sont pas organiques, parce qu'il y arrive encore que de temps en temps, il y ait quelques sacs ou quelques canettes, ça peut arriver. Donc une machine va en fait séparer la matière organique de ces matières non organiques. Derrière, on va avoir une sorte de traitement pour en supprimer les bactéries nocives. Ça va retourner derrière dans un méthaniseur, une sorte de digestat, une sorte d'intestin, qui vont créer en fait du gaz. Ce gaz-là va être purifié et directement réinjecté. Et c'est ce qu'on appelle du biogaz. C'est directement réinjecté dans le gaz de ville. Et nos camions qui collectent roulent avec du gaz de ville, justement ce biogaz. Pour la partie marché de bouche, on collecte aussi les biodéchets, par exemple le boulingrin. On va collecter les biodéchets, mais on collecte aussi des coquilles d'huîtres, des cagettes en bois. C'est pour ça qu'on ne peut pas méthaniser ces produits-là. Et de ça, on va en faire du compost sur un site Suez, dans lequel, en fait, la coquille d'huître, ça a un avantage, ça enrichit aussi l'engrais. Donc on va en faire de l'engrais, mais de l'engrais agricole, bien spécifique, et ça va retourner dans les champs, et qui redeviendront des légumes, et qu'on recollectera aussi en biodéchets pour retransformer de nouveau en engrais. Donc la boucle est vraiment vertueuse.
C'est un cycle total, quoi, finalement.
Exactement.
Et justement, pour ces citoyens, peut-être si vous pouvez revenir un peu sur les composteurs individuels, comment est-ce que c'est possible d'en faire la demande, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient en avoir un. On sait qu'il y a des formations, est-ce que vous pouvez un peu expliquer tout ça?
Alors, concernant les composteurs individuels, effectivement, il y a trois possibilités pour obtenir un composteur individuel. Soit une participation à un atelier compostage de 3 heures. Donc là, vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur notre site internet ou en appelant notre numéro standard. Ensuite, il y a la formation en ligne. Donc c'est une formation qui dure 45 minutes à 1 heure. Où là, c'est une formation assez complète sur le compostage, où à la fin, en répondant à 70% de questions, vous avez le droit aussi à un composteur gratuit. Ou dernier point pour obtenir un composteur, vous pouvez venir l'acheter à tarif préférentiel directement dans nos services.
Et justement, nous avons pu nous rendre à un de ces ateliers de compostage.
Il est actuellement 9h, donc pas de grasse mat en ce samedi matin. On a rendez-vous à la direction des déchets de la propriété de la ville de Reims, au Recycle Lab, pour un atelier sur le compostage, notamment pour apprendre un peu aux citoyens à bien composter, puis à la fin leur offrir leur composteur individuel au collectif. Et donc, on va essayer un peu de voir comment se passent ces ateliers et puis de discuter un petit peu avec les gens. Là, actuellement, je me trouve dans la zone Farman, rue Robert Fulton. C'est assez amusant parce que pour venir ici, on est passé devant l'incinérateur en fait, qui incinère tous les déchets ménagers de Reims. Donc, c'est un peu contrasté par rapport à l'ambition écologique de ces ateliers. Mais voilà, on va aller interviewer un petit peu les participants et puis aussi le formateur pour qu'il nous parle un petit peu de leur rapport au compost et puis surtout de comment faire un bon compost.
Une peau de banane.
Allez,
alors là il, c'est un composteur qui est ouvert aux personnes des entreprises extérieures. Et du coup, les pots de banane, oui, on peut les mettre, pas de souci. Ce qu'il faut, c'est vérifier que les petites étiquettes ne soient pas dessus. Quoi.
Et les filtres comme ça, on peut les mettre dedans?
Ça oui. Les filtres à café, oui, bien sûr. Ouais.
Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une barquette.
Et ça, c'est une barquette en...
C'est du plastique, ça, non?
Non, je crois que c'est du carton. C'est du carton, mais alors... je vais les enlever, ouais, parce qu'il y a un revêtement plastique dessus.
Ouais.
Hein, ça, il ne faudrait pas le mettre dedans. Même s'ils disent que c'est biodégradable.
Il y a des os, c'est pas bien.
Alors voilà, il y a un os, c'est pas bien. Alors je vais vous montrer voilà, comment on fait. C'est très très simple. Hein. Au niveau... là, il y a des restes de nouilles aussi. Bon, mais c'est pas très grave. Le plus embêtant, c'est ça, quoi. Hein, un morceau de plastique.
Bah, les nouilles,
les nouilles, ça va se dégrader. Il n'y a pas de souci. Hein.
Ah oui.
Donc on brasse sur une vingtaine de centimètres. Voilà. Là, j'ai fait un peu plus. Pour bien mélanger.
Ah, ça grouille de bébé.
Voilà, vous voyez, il y a quand même plein de bestioles. Hein. Donc ça, c'est plutôt bon signe.
Ah, d'accord.
Voilà, il a l'air un peu sec hein, sur le dessus. Donc on va l'arroser là, avec ma collègue. Et vous voyez, tout à l'heure, ça, Le papyrus là, bah
ouais,
ok, mais
faut le découper,
voilà, ok, mais faut
des
le.
Les
feuilles de bambou, oui. Le bambou en lui-même, oui, mais il faudra essayer de le broyer, quoi.
Ouais,
mais broyer un bambou, hein. C'est le mieux, c'est de l'utiliser en sèche, votre bambou, ou de trouver une autre utilité, mais
en
sèche.
Ah, oui.
Hein, revenez sur un atelier jardinage.
Oui, oui, oui,
genre, je vous
sais.
En parlerai. Parce que là, je vous ai sucré la pause à cause de ça, hein, parce qu'on a fait beaucoup d'apartés jardinage. Alors là, voilà. Là, il y a beaucoup de cloportes.
Hein,
et il y a des fourmis. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les fourmis, elles s'installent quand c'est trop sec. Hein, quand c'est trop sec, elles vont venir parce que. Parce que c'est pratique pour elle, le sol il est pas humide et puis c'est un petit peu chaud donc.
Ouais, il est beau quand même.
Pas mais du c'est... tout.
Mais
non mais c'est
faut, ça, des fourmis,
c'est bien, ça montre ce qu'il faut pas faire. Voilà, puis il y a des après, assiettes, ça faut que je pense. À... Voilà, là il y a quand même des vers de terre, il hein, y a tout ce qu'il faut, hein. Hein, il y a des cloportes.
Alors la plupart des gens rencontrés pratiquaient déjà le compostage et venaient surtout ici pour trouver des réponses à leurs questions concernant leur compost qui était en général plutôt malade ou ne fonctionnait pas très bien.
Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom déjà ?
Sandrine.
Merci Sandrine. Pourquoi est-ce que vous êtes venue à cet atelier aujourd'hui ?
Parce que je faisais déjà du compostage, mais je pense que je ne le faisais pas correctement. La preuve, j'en ai la certitude maintenant. Donc voilà, pour faire mieux.
Et du coup, ça vous était de bons conseils aujourd'hui ?
Ah ouais, vraiment, très très bons conseils, très clairs, très pratiques.
Et vous en faites quoi après de votre compost ? C'est pour vos plantes, ça ?
Oui, voilà, c'est ça, pour le jardin, pour le potager, un peu, voilà, puis les arbres, enfin un peu tout.
C'est super, puis en plus, là, vous repartez du coup avec un compost supplémentaire.
Voilà, c'est ça.
Et vous mettez quoi un peu dans votre compost ?
Bah là, actuellement, on mettait beaucoup de matière verte, hein, mais je m'aperçois qu'on ne met pas assez de matière brune, hein, comme on nous a expliqué, donc un peu de carton, un peu d'arbres, voilà, de branchages, etc.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
À l'issue de l'atelier, on a également pu discuter avec le formateur pour qu'il nous en dise un peu plus sur les objectifs de ces ateliers, mais surtout pour qu'il nous livre des conseils sur le compostage.
Bah déjà, je ne sais pas si vous pouvez nous présenter un peu quand même les ateliers pour peut-être donner un peu envie aux gens justement qui nous écoutent de venir ici. À quoi est-ce que ça sert Quel est le but en fait de former les gens au compostage ? On peut penser de base que c'est assez facile et tout, mais finalement, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi.
Ouais. Alors les ateliers compostage qui sont pratiqués ici durent 3 heures. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire « Ah bah c'est simple à faire du compostage ». Mais les anciens faisaient ça. Mais les anciens, en réalité, ils faisaient des pourrissoirs. Et il y avait beaucoup de rongeurs, il y avait beaucoup de soucis qui arrivaient. Maintenant, en plus des rongeurs, on a les ratons laveurs qui arrivent aussi et qui vont faire des tours dans ces endroits-là. Et bon, ça devient problématique... le raton laveur, par exemple, c'est problématique pour la biodiversité parce que ça va détruire toute notre biodiversité locale. Et donc, du coup, bah, ça dure 3 heures, les ateliers. On les fait ici au Recyclab rue Fulton, mais on peut les faire aussi en délocalisé dans les villages hein, qui sont de l'agglo de Reims, il n'y a pas de souci. Et puis, ça se fait également au parc de Champagne. De temps en temps, et puis pour le jardinage surtout, et puis également à l'école des jardiniers.
Voilà. Parce que justement, je ne sais pas si vous pouvez présenter un petit peu le Recyclab, parce que vous ne faites pas que des ateliers compostage.
Non, au Recyclab, donc c'est une salle, un lieu qui est dédié par le service des déchets, de gestion des déchets, et qui sert à réduire nos déchets. Donc il va y avoir... des ateliers sur le compostage, il va y avoir des ateliers sur le jardinage également, mais il va y avoir aussi des ateliers de couture, des ateliers sur la cosmétique. Il y a des repair cafés qui sont mis en place une fois par mois, également au Recyclab. Voilà.
Et puis justement, alors peut-être pour revenir sur le compost un peu, est-ce que vous pouvez déjà un peu écarter la peur des gens ? Parce que souvent ce qui revient c'est un peu que ça sent mauvais, les bêtes qui risquent de venir et tout, au final on se rend compte que c'est pas vraiment le cas, quoi.
Non, c'est le ça sent mauvais, c'est vrai uniquement dans un composteur qui est mal géré. Quand les gens ils sortent de ces ateliers-là, de ces animations-là, ils savent pourquoi ça risque de sentir mauvais. C'est parce que c'est pas, on n'apporte pas les bonnes matières, on en apporte trop par rapport à une autre, ou alors on passe parce qu'on brasse pas. Voilà, ça c'est pourquoi ça sent mauvais. Et puis après, bah, les petites bêtes, les rongeurs qui peuvent s'installer, bah, ça c'est malheureusement, y a des endroits dans Reims où il y en a déjà beaucoup. Donc il suffit de mettre en place un petit système pour empêcher les rongeurs de remonter dans le composteur. Et puis après, de s'en occuper correctement. Hein, c'est pas le tout de mettre en place le système. Si on s'occupe pas correctement du brassage ou des apports, bah, les rongeurs vont toujours être là. Hein, y a pas de, voilà.
Et ce serait quoi vos quelques... Alors ça remplacera jamais une formation de 3 ans, mais si vous aviez 3-4 conseils principaux à donner aux gens qui veulent se lancer dans le compostage, qu'est-ce que ça serait ?
Venez à une formation sur le compostage, premier. Et après, il faut quand même se dire que c'est un petit investissement en temps, mais qui a du sens aussi pour la planète. Hein. Ça a du sens pour notre environnement, pour notre bilan carbone de faire ça. Il faut avoir le bon matériel. Hein. Faut pas, ça sert à rien d'acheter des composteurs puisqu'on peut les avoir gratuitement offerts par l'agglo de Reims, des composteurs de qualité. Mais derrière, il faut quand même acheter un petit matériel qui s'appelle le brasse-compost pour pouvoir brasser correctement son composteur. Et une fois qu'on a ça, on fait les bons apports, des bonnes matières, on passe 5 minutes, c'est même pas ça, c'est 20 secondes à brasser son compost et tout roule quoi. Tout roule une fois que c'est fait.
Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire aussi ?
Bah, les erreurs.
Interdits,
les erreurs, surtout quand on débute, c'est de ne pas mettre les restes de plats cuisinés parce que ça, tout de suite, ça va amener des rongeurs. Voilà. Ça, c'est le. Moi, pour les gens qui débutent le compostage, je leur dis. N'en mettez surtout pas, ça fait partie des choses qui sont pour moi interdites au début. Voilà, ça c'est pour éviter d'avoir des rongeurs dès le départ. Et puis après, bah, c'est les bons apports, il faut faire les bons apports de matière. Amener autant de matière verte que de matière brune, et puis brasser. Voilà, ça c'est ce qu'il faut faire.
Et pour servir du compost, après, est-ce qu'il y a une quantité à respecter? Parce que pour les plantes, est-ce que c'est pas risqué finalement de trop leur donner de compost d'un coup?
C'est plus ou moins risqué, c'est pas vraiment un gros risque, mais on dit toujours qu'il faut pas dépasser 5 litres de compost par mètre carré et par an. Voilà. Mais si on en met une dizaine de litres par mètre carré, c'est pas vraiment problématique en soi, quoi. Ça va finir par se réguler de soi-même, quoi, ce genre de choses.
Et pour juste dernière question pour revenir sur ces ateliers, vous savez combien de personnes vous formez à peu près chaque année?
Je l'ai su, mais je ne m'en rappelle plus. Et puis il y a des petites variations selon les années. Je crois qu'il y a 2 ans, on avait plus de 1000 personnes formées. Et l'année dernière, on devait être aux alentours de 500. Parce qu'on a eu, je pense, un petit souci de communication. Voilà.
Merci beaucoup. Puis merci,
je vous en prie.
Les gens étaient tous très contents, puis aussi de repartir avec le compost.
Ah ouais. Après, je vais regarder sur les questionnaires de satisfaction, mais voilà, ils sont pas pressés de repartir, même si ça dure 3 heures. Et on a l'impression que ça dure longtemps, mais
c'est très vite, je trouve. Quand même. Puis les gens étaient très curieux. À chaque fois, il y avait plein de questions.
Oui, il y avait plein de questions. C'était assez sympa.
Et puis surtout, à l'issue des 3 heures de formation, les participants ne repartent pas les mains vides. En effet, chaque foyer a le droit de repartir avec un composteur individuel en bois ou en plastique qu'ils peuvent mettre au fond de leur jardin pour faire un meilleur compost.
Mais si vous êtes intéressé par le compostage, vous pouvez également suivre une formation en ligne proposée par le Grand Reims pour tester vos connaissances sur le compost. Cette formation d'une durée de 1 heure vous permet, si vous réussissez la formation, vous permet que l'on vous offre un composteur et un bio-seau offert par les services de la ville.
Cette formation, elle est accessible peu importe que vous soyez d'ailleurs de Reims ou du Grand Reims pour vous informer sur le compostage. Alors si le compost y répond à une recette aussi précise comme on l'a vu, c'est avant tout parce qu'il s'agit d'un phénomène biologique. Pour en parler plus en détail, on a eu la chance de rencontrer Gwenaëlle Lazerme, qui est directrice de recherche à l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche Agricole, Alimentaire et à l'Environnement, du département Agrosystème à Reims, à l'URCA.
Dans un premier temps, on voulait vous demander, composter, ça veut dire quoi ?
Donc, si on parle du sens écologique, sinon c'est valider un ticket, mais c'est un processus naturel qu'on reproduit à petite échelle. Donc, composter, ça consiste à transformer des déchets organiques, donc par exemple des épluchures de fruits et de légumes, du marc de café, des restes de végétaux. Et on va les transformer en matière organique, en matière qui est appelée le compost. Donc c'est les microbes, les micro-organismes qui font cette transformation, donc les bactéries et les champignons, et aussi des petits êtres vivants, comme par exemple des vers, qui vont décomposer cette matière. Et donc avec le temps, les déchets se transforment en une sorte de terre plutôt noire, plutôt sombre. C'est ça le compost, et c'est riche et c'est fertile. Et c'est un peu comme un cycle, le cycle naturel en forêt. Il y a les feuilles qui mortes qui tombent et qui redeviennent de la terre, qui deviennent de l'humus quand on se promène en forêt. On marche sur une terre qui est un peu élastique, qui est noire et riche, et c'est l'humus. Et ça ressemble beaucoup au compost.
Très bien. Et sinon, de manière... donc ça, c'est pour la transformation du coup des biodéchets, mais on en reparlera plus tard. Sinon, comment se passe le traitement des déchets en France, des déchets ménagers de manière...
Alors, vaste question. Là, c'est un grand chapitre. Alors, donc, quand on jette des déchets dans le bac d'ordures ménagères, ils vont avoir un circuit qui est bien organisé. Bon, souvent, c'est assez invisible. D'abord, ces déchets sont collectés par les services municipaux. Après, ils sont transportés vers un centre de traitement. Et ils arrivent tous... Enfin, contrairement, si on les trie, ils vont arriver séparés. Mais là, si on ne les trie pas, ils vont arriver tous mélangés. Et donc, ça limite beaucoup les possibilités de recyclage. Donc, dans de nombreux cas, ils sont envoyés dans une usine d'incinération. Donc là, ils sont brûlés à très haute température, ce qui permet de réduire fortement leur volume. Et donc, des fois, dans la plupart des cas, on va récupérer l'énergie pour faire de la chaleur ou de l'électricité, puis réinjecter dans le réseau. Mais ça génère donc des résidus, les cendres, qui doivent être traitées à leur tour. Et, une autre possibilité, selon... les endroits, c'est d'enfouir ces déchets. Et donc, ces déchets sont alors stockés dans des centres qui sont spécialisés où tout est fait pour réduire la pollution. Mais voilà, ça dure très longtemps, puis il y a quand même beaucoup de pollution qui est associée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est quand on jette un déchet dans la poubelle classique, il est rarement valorisé de manière optimale, d'où l'importance du tri. Et en fait, les biodéchets, donc c'est les déchets organiques, les déchets de cuisine et les déchets de jardin, ça compose environ un tiers de notre poubelle. Et puis, environ 30 kg de nourriture par personne sont jetés après avoir été achetés en France chaque année. Donc ça, c'est autant de matière qui va dans la poubelle et qui pourrait être triée.
Et justement, comment ça se passe, ce processus de transformation de ces déchets en matière organique, en humus ?
Cette décomposition, donc c'est les microbes qui vont se succéder, différentes catégories de microbes qui vont se succéder et qui vont sécréter des enzymes. Les enzymes, c'est ce qui permet de faire des réactions biologiques et biochimiques et qui permettent de découper en petites molécules les déchets. Et puis, les matières vont aussi se réassocier et transformer la matière organique. Sur le plan biochimique, je ne sais pas si vous voulez des détails.
Je vais apporter un complément. Donc, Élie Le Guyader, je suis ingénieur de recherche dans la même équipe que Madame Lazerme. Et donc, Oui, en fait, bon, il y a dans encore du processus de compostage, il y a bon, il y a un côté qu'on pourrait qualifier de polluant, parce que il y a la minéralisation du carbone, donc du CO2 qui va se libérer, même en conditions aérobie. Mais ça, c'est aussi ce qui se passe donc dans un champ. Hein, donc c'est simplement, on va le composter au préalable avant de l'appliquer. Donc il va y avoir une partie du carbone de la matière organique qui va déjà se dégrader dans le compost, et donc une matière organique plus stable une fois apportée au champ. Hein. Et après, un complément au niveau pour les personnes qui seraient intéressées pour faire un compost dans leur jardin, il y a certaines essences qui seraient un petit peu à éviter, comme je dirais le thuya ou le laurier, donc avec des matières organiques assez récalcitrantes, difficiles à dégrader. Donc là, le processus est bien plus long. Le processus de compostage, globalement, il faut éviter de les mettre en grosse quantité. Ouais.
Oui, et donc tout ça pour permettre d'enrichir les sols aussi.
Oui, alors le compost, il peut avoir deux effets sur le sol. Un effet, on va dire, plus amendant. Il va permettre d'enrichir la structure et le fonctionnement global du sol. Il va permettre que le sol soit plus aéré, que les particules de sol se tiennent mieux entre elles, soient plus solides et plus résistantes, par exemple à la compaction si on marche dessus. Il va permettre à l'eau de mieux s'infiltrer, il va mieux retenir de l'eau, ça va être comme une éponge. Et puis il va être fertilisant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rapporter de l'azote et des autres éléments, hein, du phosphore, du soufre, du potassium, pour les plantes. Donc c'est quelque chose qui va booster le sol, mais aussi sur le temps long, donc il améliore le fonctionnement plutôt global.
Donc maintenant qu'on a évoqué comment fonctionne le compostage, nous allons évoquer comment l'utiliser une fois produit.
Alors, ce qu'on peut mettre dans un compost, une grande variété de déchets, mais pas tout quand même. L'idée, c'est de mettre tout ce qui est les matières organiques, c'est-à-dire qui a une origine végétale ou naturelle et qui peut se décomposer. Donc on peut composter sans hésiter tous les déchets de cuisine, les épluchures, le marc, les filtres en papier, le pain, les laitages, les croûtes de fromage, les fanes de légumes, les fruits et légumes abîmés, les déchets des jardins, s'ils ne sont pas utilisés pour le paillage, certains déchets de la maison, comme les mouchoirs en papier, les suie-tout, les cendres, le papier journal, les plantes d'intérieur, les cartons qui ne seraient pas souillés par des produits polluants. Après, il y a des produits, enfin des déchets qu'il faut composter plus modérément ou avec précaution. Donc, par exemple, les déchets qui seraient très ligneux ou durs, comme les tailles, les branches. Ça met un peu plus de temps à se dégrader, donc il faut les broyer au préalable pour qu'ils puissent être dégradés. Les mauvaises herbes, si on ne veut pas trop disséminer les graines. La viande, il faut plutôt la mettre en petits morceaux bien au centre du compost, pas en trop grande quantité. Et les végétaux malades, si on ne veut pas trop disséminer les maladies, donc faut faire un peu attention à ce qu'on peut mettre. Et ce qu'il ne faut jamais mettre dans le compost, c'est tout ce qui pourrait polluer après le compost. Donc les produits qui ne sont pas biodégradables, le verre, les métaux, les plastiques, les couches, les bois vernis, les produits chimiques comme les huiles de vidange, voilà, il faut les recycler de manière séparée.
Et les agrumes.
Les agrumes, on peut mettre les agrumes tout à fait dans le compost sans hésiter. On peut, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc après, il y a plein de façons de composter. C'est comme une recette de cuisine. Il y a des guides qui sont fournis, notamment par l'ADEME, qui est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise d'Énergie, ou soit le Grand Reims, il propose des vidéos de formation en une heure, ou soit des ateliers. Donc il ne faut pas hésiter à se former. Des règles d'or, c'est de bien mélanger les déchets entre eux. Enfin, mélanger à la fois les déchets qui sont un peu humides, comme les déchets de cuisine, les tontes de gazon, et puis les déchets qui sont plus secs, comme les branches qu'il faut broyer au préalable, le papier, la paille. Il faut mélanger les déchets carbonés, qui sont les tailles, les branches, les feuilles mortes, et les déchets azotés, qui sont plutôt les déchets de cuisine, et tout type de taille de déchets. Il faut bien favoriser la circulation de l'air, surveiller l'humidité, que ça soit toujours un peu humide, mais pas trop. Et puis, il ne faut, faut pas oublier son compost. Il faut lui rendre visite de temps en temps pour voir si, s'il n'est pas trop sec ou pas trop humide. Il faut pas qu'il soit, il faut aussi, par exemple, pas qu'il soit en plein soleil. Il faut qu'il soit... C'est pas facile à dire comme ça, mais un peu à l'ombre et un peu au soleil pour qu'il soit bien vivant. Et ça dure entre 6 mois et 10 mois, donc il faut laisser le temps aussi à la décomposition.
Et c'est quoi les mauvais signes de santé d'un compost ?
Quand les déchets sont trop humides, par exemple, si on met trop de déchets de cuisine, on ne va pas mélanger avec des morceaux d'autres déchets plus structurants, ça va faire comme un beurre noir, ça va devenir très compact. Et là, ça veut dire qu'on a mis des choses trop humides et trop azotées. Il faut mettre des choses plus carbonées et laisser l'air passer. Donc ça, par exemple, il peut être aussi tout sec. S'il est tout sec, il n'y aura plus de vie microbienne. Voilà. Il faut à la fois de l'air. Le compostage, c'est une décomposition qui se passe avec de l'air. Donc il faut de l'air, des microbes, à manger pour les microbes, un peu d'eau.
Pour autant, il faut bien faire la différence entre un compost individuel et un compost industriel. Les composts industriels peuvent être une source de pollution, mais ça, on aura plus d'informations avec Gwenaëlle Lazerme.
Au niveau industriel, composter, c'est pas pollué, au sens où, globalement, pendant le processus de compostage, il y a du CO2 qui est émis, mais effectivement, ce CO2, il serait émis également lors de la décomposition dans le sol. Il peut y avoir du méthane et du protoxyde d'azote qui sont émis, donc du CH4 et du N2O. Mais au niveau industriel, c'est bien, ou sur une plateforme de compostage, c'est bien maîtrisé. Des fois, les particuliers chez eux peuvent produire beaucoup de protoxyde d'azote si justement ils mettent trop d'eau dans leur compost. Donc il y a la production de gaz à effet de serre si la décomposition ne se fait pas dans des bonnes conditions. Il y a des odeurs aussi, mais globalement, le compostage réduit énormément les odeurs. Si on étend des bouts de stations d'épuration ou des bouts issus des industries, les mauvaises odeurs sont bien supérieures. Si on ne récupère pas les biodéchets et qu'on les laisse, et la pollution sera aussi importante. Il faut faire attention beaucoup à la qualité des déchets, parce que sinon on va disséminer les polluants. Et donc dans les polluants, il y a les polluants notamment organiques, donc les résidus de médicaments, les résidus de pesticides, et aussi les plastiques et microplastiques. Je pense que j'ai pas assez insisté tout à l'heure quand vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il faut mettre dans un compost. Donc il faut pas mettre de plastique. Il faut surtout pas mettre de plastique. Même les plastiques qui sont dits dégradables, il faut faire très attention. Il y a très peu de plastiques qui sont réellement dégradables. Donc il faut faire attention à ne pas disséminer une pollution. Si on sait qu'un déchet est contaminé, il ne faut pas le mettre dans un compost. Donc le compostage peut en partie dégrader un peu les polluants organiques, un petit peu, les médicaments, les hormones, mais pas beaucoup. Les plastiques, c'est vraiment le grand problème du compostage. En plus, il y a eu beaucoup de mésinformations autour des informations erronées autour des plastiques qui sont compostables. En fait, ils se fragmentent, surtout l'oxoplastique, ils se fragmentent et ils sont impossibles à récupérer ensuite. C'est pas vraiment biodégradable.
Le plastique, c'est pas fantastique. Le caoutchouc, c'est relou, qu'il soit mou ou qu'il soit dur. Le plastique est une ordure. Burk, burk, dérivé du pétrole, dans l'eau, dans l'air et dans nos assiettes. Demain, ça m'étonnerait qu'on rigole quand on aura tout niqué la planète. Le plastique est une ordure.
Merci. Merci Frédéric Fromet.
Les incitations et moyens de compostage mis en place par le Grand Reims s'inscrivent ainsi dans la loi du 1er janvier 2024 visant à mieux recycler nos biodéchets, c'est la loi AGEC qu'on a évoquée depuis le début de notre émission. Cette loi, elle apporte une réglementation et une généralisation des pratiques dans le compostage et suscite un fort enthousiasme dans tout le monde du compostage, comme nous venons de le voir, aussi bien que ce soit du côté de celles et ceux qui pratiquent le compostage partagé que des entreprises de collecte qui voient une manne financière. Alors néanmoins, le relatif flou de cette loi qui s'applique aux collectivités laisse envisager une grande diversité de mises en pratique. Dans les zones rurales, le compostage domestique pourrait être privilégié, ne se situant pas à proximité directe des points de collecte. Dans les zones par contre plus urbaines, comme c'est le cas à Reims et ses alentours, les villes appuient sur la nécessité de proposer, je cite, un panel de solutions à leur population, cumulant ainsi compostage de proximité et système de collecte. C'est le cas à Reims, dans le Gros Reims et ses communes limitrophes. C'est le cas où on retrouve des composteurs partagés, individuels, des points aussi d'apport volontaire, ces derniers qui ne se trouvent uniquement dans les zones les plus urbanisées. On les appelle, ces points d'apport volontaire, les PAV dans le milieu de la collecte des déchets. Et c'est à eux dont on va s'intéresser dans notre second et dernier épisode. Ces points de collecte que vous observez un peu partout en vous baladant dans Reims. Alors les biodéchets, ils vont être jetés dedans par les particuliers et en réalité ils vont pas être transformés en compost, comme on l'a vu là par exemple avec les déchets verts durant cette émission, mais ils vont être transformés en biogaz qui est une source d'énergie grâce à un processus appelé la méthanisation, qui est géré par le Grand Reims et puis par ses prestataires.
Par ailleurs, il était important pour nous de rappeler que l'enthousiasme que suscite la généralisation du tri et la valorisation des déchets organiques ne doit pas faire oublier que c'est la surproduction des déchets qui devrait être au cœur de nos préoccupations. Aujourd'hui, plus d'un tiers de nos déchets alimentaires sont gaspillés. Donc finalement, avant de penser à des solutions de recyclage, il paraît important de revoir nos comportements, revoir nos modes de vie qui sont uniquement basés sur la consommation et changer plus globalement notre système de production qui pousse à de telles quantités de déchets.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission et puis on se dit à très vite pour notre toute dernière émission où cette fois-ci, comme je l'ai dit, on évoquera plutôt la méthanisation, un processus assez clivant. Merci pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain.
À bientôt.